Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Merci Léana et bonsoir à tous. Bienvenue dans une nouvelle semaine sportmédable. Autour de la table avec moi, de la gauche vers la droite, Eric Figuère, bonsoir.
Bonsoir.
Ricardo Baroni, bonsoir.
Bonsoir.
Et Bastien Antoine, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à tous les trois d'être avec nous ce soir. Un programme assez sympathique, du vélo, de la moto, du tennis, du foot, il y en a pour tout le monde. Et on va démarrer avec le cyclisme parce qu'il y a eu cette...
Tu as oublié le golf.
Et un peu de golf, effectivement, un peu de golf. Un tout petit peu ou un petit peu beaucoup?
Oui, un petit peu.
Un petit peu. Allez, cette fois. Le cyclisme pour ouvrir cette semaine formidable avec cette triste nouvelle sur la Vuelta, l'abandon de Tadej Pogacar et Riccardo Baroni. C'est le pire qui pouvait arriver sur cette Vuelta. On le disait déjà, le dernier des grands tours qui est un peu moins suivi que les autres. Le grand favori n'est plus là. Compliqué pour cette Vuelta.
Oui, triste nouvelle parce qu'il s'est fait très mal. Mais si on voit au niveau sportif, ça nous relance une Vuelta où la semaine dernière, on se demandait qui allait gagner ou qui allait plutôt faire deuxième, puisqu'il dominait vraiment au-dessus de la mêlée Tadej Pogacar. Là, il est tombé, donc il avait déjà plus de 3 minutes d'avance et il s'est vraiment bien amoché. Et ce qui est regrettable, c'est que ben, pour sa fin de saison, ça va être compliqué et je pense qu'on le reverra plus d'ici la fin de saison. Ce qui nous permet de relancer le cyclisme pour toute cette fin de saison, que ce soit par exemple les championnats du monde qui ont lieu vers
dans
la fin
mois.
Du mois de septembre, voilà, dans un mois. Donc maintenant, ça donne plein d'ambition à des gens qui... prenait le départ en se disant voilà, on a de fortes chances de faire deuxième.
On va y venir, parce que j'imagine que vous pensez à Paul Sexas dans tout ça. On en reparlera dans quelques instants. Avant ça, Eric Figuère, sur cet abandon de Tadej Pogacar, on l'avait vu tenter déjà dans une descente se faire peur, le lendemain devoir abandonner. Il est allé un peu trop loin.
Déjà, par rapport à ce que Ricardo a dit, c'est certain qu'on le... Enfin, c'est certain. On n'est jamais certain de rien, mais c'est très, très probable qu'on ne le revoie plus et qu'il ne participe pas au championnat du monde. Donc, sa saison est très certainement terminée. Il est aussi très probable, lui comme les autres, et même lui, aussi fort soit-il et aussi dominateur soit-il, la fatigue peut très bien lui avoir enlevé ce petit dixième de lucidité. Il a apparemment voulu éviter peut-être un caillou sur la route. On l'a vu faire un petit écart, toucher un de ses partenaires et puis faire un soleil et donc du coup se blesser assez gravement. Donc je pense que la fatigue finalement a fini par le rattraper. Il avait failli, comme tu l'as dit, tomber vraiment sévèrement dans une descente. On savait aussi, même si les spécialistes du cycliste ne voulaient pas trop le dire, que bah, sauf grosse blessure comme il est arrivé là, et ben il serait vainqueur de la Vuelta 2026. Bah, ça relance évidemment cette course-là, et puis ça relance la fin de saison, ça relance le championnat du monde, ça relance beaucoup de choses, pas seulement pour Paul Sexas, mais pour tous les autres, puisque du coup, je pense que l'appétit va tout d'un coup devenir très important chez pas mal de coureurs, parce que il est tellement dominateur, hein, c'est le Eddy Merckx d'aujourd'hui, hein. Et donc pour le battre, ça paraît très très compliqué, même s'il y a 2-3 coureurs qui pouvaient prétendre à la victoire au championnat du monde, notamment pas sur la Vuelta, parce qu'il était pour moi quasi imbattable. Donc une belle fin de saison à venir. Malheureusement pour lui, ce sera son...
Comme souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà. Sur cette Vuelta, désormais, c'est l'Espagnol à domicile, Enric Mas, qui est en tête. Est-ce qu'on pouvait espérer s'attendre à le voir aussi bon, aussi performant? Et voilà, comme on l'a vu sur le podium, ne pas vouloir célébrer, ne pas vouloir porter le maillot rouge le premier jour. Le lendemain, il remporte cette victoire, Riccardo Baroni. Il est à sa place?
Oui, il est à sa place, puisque une ou deux étapes précédentes, Pogacar a attaqué dans une montée non goudronnée, en caillasse. Comme on dit en Nouvelle-Calédonie, il a attaqué et au sommet, Enric Mas est revenu sur lui et lui a même fait le Grand Prix de la Montagne en lui faisant signe de faire attention dans la descente. Comme vous l'avez dit, il a perdu le contrôle dans un virage, mais il n'a rien fait de grave. Il a pu se reprendre et aller gagner au sprint devant Enric Mas. Donc, c'est vrai, il n'a pas voulu, à l'arrivée, lors de cette chute de Tadej Pogacar, il n'a pas voulu mettre le maillot. Mais je pense qu'actuellement, il a en plus gagné cette nuit dans une étape avec beaucoup de dénivelé. Donc je pense que le maillot est mérité pour lui. Ce qui est bien, c'est que dans les 5 premiers, il n'y a qu'un écart d'environ 2 minutes et qu'on n'est qu'à la première semaine. Donc ça nous laisse encore du suspense pour la suite.
Ouais, alors juste derrière, Primoz Roglic, 1 minute 18, Félix Gall, 1 39, Oscar Hanley qui est le meilleur jeune et qui a terminé deuxième de cette étape à 2 minutes 20. Derrière, Richard Carapaz, Kelmos, Sepkus, des noms de haut niveau, de très haut niveau, même sur cette Vuelta. Voilà, il y a du monde, il n'y a pas de Français malheureusement dans le top 10, Clément Berthet 11e. Mais Eric Figuier, sur ce top 10, tout peut changer encore.
Ricardo le dira encore mieux que moi, parce que c'est lui le spécialiste, mais ils sont quasiment d'un niveau équivalent, donc c'est très ouvert. Et puis on voit justement les écarts, hein, même si Pogacar avait lui déjà fait un petit écart avec les suivants. Mais derrière, c'est finalement très serré. Aucun n'a la caisse pour prendre 3-4 minutes. Alors, je dis ça. On va voir encore un petit peu, hein. Mais aucun n'a la caisse de prendre 3-4 minutes et puis d'augmenter comme l'a fait Pogacar au Tour de France. Donc je pense qu'ils seront encore quelques-uns à pouvoir jouer la gagne, je pense, hein, Ricardo, je sais pas ce que tu en penses, mais au moins 3 ou 4 jusqu'à la fin, très
une
probablement.
Aujourd'hui c'est repos, il reprend
c'est
l'auto,
ça, ouais,
on partira demain.
Repos. C'est ça, et ce qu'on va avoir aussi de bien cette année, 3 tours, 3 vainqueurs différents. Félix Gall a fait deuxième au Tour d'Italie derrière Vingegaard, qu'on n'oublie pas qu'il a dû abandonner aussi sur chute le Tour de France. Donc dans les favoris, c'est vrai qu'il n'y a rien de, il n'y a pas un coureur qui est au-dessus du lot et qui va nous permettre de dire ben voilà, je mise sur lui à 90%. Si ce n'est Roglic qui a gagné plusieurs fois la Vuelta.
Justement,
par
j'allais
exemple.
Vous poser la question.
Voilà, il a gagné plusieurs fois la Vuelta. Donc, il a de l'expérience sur une course de 3 semaines. Il est toujours bien placé. Et donc, je pense qu'on peut encore avoir une course avec du suspense. En plus, la course ne va pas être cadenassée comme faisait l'équipe à Pogacar, parce que lui, il voulait gagner les étapes. Donc, la course était cadenassée. Là, je pense qu'il y aura plus d'échappés qui iront jusqu'au bout. Et qui sait, on va peut-être voir un deuxième Français qui va gagner, parce après qu'à moi. Cause de cette chute, malheureusement, on n'a pas parlé du Français qui avait gagné l'étape le même jour, Coquart, et c'est Brian Coquart, et c'est un peu dommage pour lui, parce qu'il a vraiment gagné un joli sprint, et donc ça a un peu atténué sa victoire, mais ça fait plaisir de voir sur un tour comme la Vuelta, un Français qui gagne une étape.
Et première victoire pour Coquart sur un grand tour, hein, je crois, sans me tromper.
C'est ça.
Bon, ça c'est quand même une belle nouvelle, puis ça a toujours été un beau coureur,
qui a toujours été
toujours montré,
dans les
qui a toujours été voilà, qui a toujours montré son talent, donc c'est beau. Puis un bon trentenaire, me semble-t-il, aussi.
C'est d'autant mieux qu'il est dans une équipe française, Cofidis, et qu'ils étaient un petit peu, on va dire, en difficulté au niveau des résultats. Et donc, ça fait plaisir de voir un Français dans une équipe française qui gagne, quoi.
Justement, dernier mot sur les Français, sur cette Vuelta. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce que les Français 11e, 14e, 15e peuvent grappiller quelques places, s'installer dans le top 10, ou ça reste encore... Il y a une petite limite, un petit plafond de verre.
Je pense que dans les 5 premiers, ça va être difficile, hein, de voir un Français. Moi, je fais énormément confiance à Léo Bisio, qui n'est pas dans les 10 premiers,
hein, 15e.
Même pas dans les 15e. Mais c'est un grimpeur, il vient de signer un long contrat dans son équipe. Son équipe lui fait confiance.
Chez Decathlon.
Voilà, tout à fait, chez Decathlon. Le problème, c'est qu'ils ont chez Decathlon un coureur qui est placé au général, Félix Gall. Et donc, l'équipe, dans les étapes, il court pour lui, pour mieux le placer. Et Léo Bisio, ben, il est un peu sacrifié pour ce genre de travail. Mais les étapes arrivant, peut-être que dans une échappée, il pourra se replacer après au classement général, un peu comme Carapaz a pu le faire durant le Tour de France. Il est rentré dans plusieurs échappées, ça lui a permis de se remettre dans les premiers, comme Martinez qui a fini 5e du Tour de France en allant dans des échappées, et que comme il était loin au général, on l'a laissé aller, il a profité pour grappiller du temps sur les adversaires.
Et un petit clin d'œil, Decathlon CMA-CGM. CMA-CGM, son siège est dans quelle ville? Et pas à Paris, mais à Marseille. Voilà, un petit clin d'œil à l'OM.
Avant de parler football, bien évidemment, on prend déjà de l'avance sur les résultats du week-end. Il faut bien qu'il y ait quelques victoires du côté de Marseille. En cyclisme, il y avait aussi du VTT ce week-end, et une victoire d'un personnage qu'on connaît bien sur les routes du Tour de France, de la Vuelta, sur la route. Cette fois-ci, c'était en VTT, victoire de Tom Pidcock au championnat du monde, Ricardo Baroni.
Oui, tout à fait, mais on va commencer par un Français qui a gagné la short track. Hein.
Bien sûr.
Un Français qui a bien gagné cette course et qui était vraiment très belle. Donc, c'est le Français Adrien Boishy qui gagne cette short track. Après, il a fait donc la course, le cross-country, qui était cette nuit homme. Et donc, c'est Pidcock qui gagne. en partant très loin. Mais comme la course, elle dure environ une heure et demie, donc il a eu le temps de rattraper son retard et après de sélectionner ses adversaires et de attaquer sur le final. Il me semble que c'est l'avant-dernier tour, dernier tour qu'il attaque. Cette course, elle m'intéressait aussi puisqu'on avait un coureur qui nous a fait vraiment plaisir à la dernière étape du Tour de France, c'est Van Der Poel, qui participait aussi à ce VTT cross-country. Malheureusement, pour lui, ça s'est pas passé. 30e. Voilà, 30e à plus de 4 minutes. Donc c'est un peu dommage. C'est un maillot qu'il souhaite pouvoir le porter un jour, ce maillot de champion du monde, et il s'y accroche. Le week-end précédent, comme vous l'avez dit, hors antenne, il y avait Léger, et là il fait deuxième. Donc il espérait
derrière un Français.
Tout à fait, toujours le même Français, hein, Adrien Boischier. Donc il espérait au championnat du monde faire une meilleure place, mais on s'est rendu compte que le parcours est très différent. Et quand le parcours est différent, pour les spécialistes, ça se passe très bien. Pour lui, qui n'est pas vraiment un spécialiste de VTT, qui est plutôt un spécialiste de cyclocross, c'était plus compliqué pour lui. Donc il est arrivé un petit peu plus loin que ce qu'on avait prévu. Mais qu'on ait des têtes d'affiche de course sur route qui viennent comme ça participer au VTT cross-country, ça fait plaisir. Et Pidcock, il a été vraiment impressionnant et il a plus que mérité sa victoire.
Justement, comment on explique le fait que des cyclistes de ce niveau-là arrivent à performer ou du moins arrivent à être présents sur des courses sur route, en VTT, en cross-country? On pense à Pidcock, à Van Der Poel. Voilà, il y en a qui aiment ça, qui aiment toutes les pistes, qui aiment toutes les différentes pistes. Mais est-ce que tous les cyclistes de haut niveau pourraient prétendre participer à ces courses-là?
Il ne faut pas oublier que ces deux coureurs, ce sont des coureurs qui courent l'hiver les cyclocross, donc ils ont l'habitude de travailler leur intensité. Après, il y a d'autres coureurs qui courent du cyclocross et qui ne viennent pas se mesurer au VTT, aux VTTistes. C'est pour ça que ces coureurs s'en sortent mieux, parce que la course, elle dure plus longtemps. Quand ça ne dure que 20 minutes, comme Adrien Boischier, qui est devenu champion du monde, quand la course est plus courte, c'est vraiment réservé aux spécialistes de VTT. Quand la course est plus longue, c'est quand même la condition physique qui en ressort. Et donc, ces coureurs qui font de la route et du cyclocross l'hiver s'en sortent sur ce genre de compétition assez bien, quoi.
Allez, on va rester sur les deux roues, mettre de côté le vélo, parler moto quelques secondes avec le Grand Prix d'Aragon ce week-end. Marc Marquez, une nouvelle fois, j'ai l'impression que les week-ends se suivent, se ressemblent comme pour le cyclisme, malheureusement, en cyclisme.
Il avait atteint le plus haut niveau mondial depuis bien longtemps. Il avait écrit évidemment l'histoire, Marc Marquez. Et puis on était encore en train de se demander, parce qu'on aime les anciens coureurs, et Valentino Rossi en premier, puisque c'est le dernier des plus grands. Et le débat, je crois, existait, en tous les cas, pour savoir qui était le plus grand des grands. Ben, Marc Marquez, malheureusement pour les adorateurs de Valentino Rossi, comme moi d'ailleurs, on va être obligé d'accepter l'idée que Marc Marquez est le plus fort et le plus grand. Voilà, il gote, comme on dit aujourd'hui. Voilà.
Ouais, c'est devenu un grand champion. Et c'est une histoire de famille aussi avec son petit frère.
Oui, et puis il a quand même, lui aussi, a quand même eu des déboires. Hein. Il a eu des blessures,
de blessures
très importantes. Il s'en est à chaque fois relevé. Il a choisi à une époque, il n'y a pas très très longtemps, de rejoindre Ducati. Ça n'a pas été facile du tout. Et puis, c'est le meilleur. Alors pour l'instant, il est encore devancé par Jorge Martin, qui est encore devant pour quelques points. Mais bon, ça ne durera probablement pas, parce que, sauf à ce qu'il lui arrive malheureusement des déconvenus comme Pogacar sur la Vuelta, ça va être difficile de ne pas lui laisser le titre.
Ricardo Baroni, un Espagnol au-dessus d'un Italien Hall of Fame, c'est OK?
Oui, j'espérais quelque chose de différent, pour la simple raison que la pole, c'était un Italien, Bezzecchi.
Donc, troisième.
Troisième. Oui, c'est ça. Et qui était donc... En faisant la pole, je pensais qu'il allait combattre un petit peu plus avec Marc Marquez. Il y a eu un duel pendant la course, pas la course sprint. Hein. C'est la course sprint. Marc Marquez a aussi gagné la course sprint la veille. Sur la compétition MotoGP, il y a eu un défi entre Bezzecchi et Marc Marquez. Et et Marc Marquez a été impressionnant pour lui montrer qui était le patron et tout. Et donc là, maintenant, au championnat, c'est là que ça devient intéressant, puisqu'au championnat, il y a très peu de points de différence, puisque Marc Marquez, il a 19 points, Bezzecchi, il est à 24 points. Donc Marc Marquez se trouve entouré par deux Aprilia, devant, derrière, et lui avec sa Ducati entre les deux. Donc je pense que ça nous permet un suspense jusqu'à la fin de saison, surtout qu'il reste quand même... 9 Grands Prix jusqu'à la fin de l'année.
Ça fait de nombreux points distribués.
Ce qui est extraordinaire, c'est de voir à quel point les écuries italiennes, et je ne dis pas ça pour faire plaisir à Ricardo, mais à quel point les écuries italiennes sont aujourd'hui ultra dominatrices. Les Japonais ont totalement disparu, même s'ils sont encore présents sur le plateau. Et les Italiens avec Ducati et Aprilia sont aujourd'hui tellement au-dessus du lot, c'en est vraiment impressionnant.
Ricardo ?
Oui, quand il parle des équipes japonaises, ça me fait penser à Quartararo, qui lui se retrouve vraiment en grosse difficulté, et je suis content qu'il change d'équipe en espérant que ça se passe mieux pour l'année prochaine, parce qu'un pilote comme lui se retrouver en grosse difficulté sur sa moto, pour pas citer la marque, ben c'est un peu dommage, parce que c'est un grand pilote.
Et il s'en va chez Honda, et malheureusement Honda va un petit peu mieux qu'Yamaha, mais pas beaucoup plus, enfin c'est un petit peu quand même, mais pas énorme. Et c'est dommage qu'il puisse pas rejoindre une des écuries justement italiennes qu'on vient de citer.
Au niveau auquel il était.
Voilà, parce que là il est vraiment à la peine. Et je pense que même avec une bonne machine l'année prochaine, il va falloir qu'il fasse passer son mal de crâne, et ça va pas être simple.
Alors qu'en revanche, Juan Zarco revient de blessure, 15e, il marque un point, un bon retour.
Oui, mais bon, je pense que Quartararo, s'il va chez Honda, c'est qu'ils lui ont promis un projet de longue durée. Donc peut-être que dans l'immédiat, il n'y aura pas les résultats escomptés. Mais moi, j'y crois. Un pilote de son envergure, il s'est déjà brûlé les ailes chez Yamaha. Donc s'il va chez Honda, c'est qu'on lui a promis quand même certains résultats et d'arriver à rivaliser avec les motos italiennes.
Et surtout que ce qui est sûr, pour rebondir là-dessus, c'est que Quartararo est toujours aussi rapide, même si ses dernières courses, il ne le montre pas du tout, malheureusement. Mais on l'a vu avec une Yamaha vraiment à la peine réussir à accrocher des pôles l'an dernier notamment. Donc on sait qu'il est rapide, il le restera, il n'y a pas de souci. Quand on voit un Juan Zarco qui revient de blessure après 3 mois, qui est encore un petit peu à la peine et qui réussit à gagner 2 fois un point dans les 2 courses du week-end, Quartararo, si effectivement sa machine est performante, il sera de nouveau à la lutte l'année prochaine.
Et vous avez parlé des écuries italiennes qui performent, pas de Formule 1 ce week-end, ce sera la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut voir une écurie italienne performer en Italie au Grand Prix de Monza le week-end prochain, Ricardo ?
C'est le problème des Italiens. Est-ce qu'il faut être pour Mercedes avec Kimi Antonelli ou pour Ferrari ? Donc on verra ce week-end. Moi, personnellement, j'aimerais bien Ferrari. Voilà, Ferrari qui gagne et deuxième Kimi Antonelli. Comme ça, tout le monde est content. Ça serait bien.
Quand vous dites Ferrari qui gagne, Hamilton ou Leclerc ?
Ben Leclerc, puisqu'il est plus loin au général.
Et d'ailleurs, il y a un très beau reportage sur Michael Schumacher en ce moment qui passe sur Canal. Alors malheureusement, pas pour dire des choses qui sont très agréables, puisqu'il est toujours dans un état difficile. Mais voilà, puisqu'on parle de Ferrari, on ne peut pas ne pas parler de Michael Schumacher, Jean Todt et de cette histoire fabuleuse.
Ricardo ?
Oui, de Jean Todt qui est quand même l'histoire de Ferrari qui a relancé Schumacher. Donc c'est vraiment, les deux vont ensemble.
Et qui est autant une légende que Michael d'ailleurs. Voilà, pour moi.
À suivre donc ce Grand Prix de Formule 1 le week-end prochain. Il y a une compétition, rien à voir avec les sports mécaniques, qui a démarré la nuit dernière pour nous. C'est du tennis, c'est le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, l'US Open. Parmi les favoris, pas Jannik Sinner, Novak Djokovic
éliminé
au premier tour. C'est une grosse surprise, ça.
On peut le dire, parce que même si on imaginait gagner avec difficulté, même s'il est toujours en course pour son 25e titre du Grand Chelem, il est toujours, malgré tout, malgré son âge, 39 ans, il est toujours quasiment sur les tournois du Grand Chelem dans le dernier carré, ou dans les 8 derniers. Donc là, évidemment, être éliminé au premier tour, c'est là, personne ne s'y attendait. Alors manifestement, il était vraiment sur le court, pas bien en tous les cas. Il a vomi, Mais bon, c'est arrivé à d'autres. Hein. Sinner en a vécu la terrible expérience à Roland-Garros, je crois. Donc, 39 ans, quand les conditions sont difficiles, on se rend compte que voilà. Et puis les joueurs adverses, comme toujours dans ces cas-là, on finit par accepter, comprendre que ces joueurs-là indestructible et imbattable pendant 10, 15 ans, pendant 15 ans souvent, et ben à un moment donné, ben voilà, ils sont plus imbattables. Et donc, ben, ça rentre dans la tête de tous les adversaires et du coup, ils jouent différemment. Et bon, là, il a quand même perdu en 5-7, hein, quand même.
Oui, c'est battu 5-7. Voilà.
Ça sent quand même, malheureusement pour lui, j'allais dire quelque chose de désagréable, mais ça sent la fin en tous les cas.
Et justement, quelle place reste pour les autres? Alcaraz de retour de blessure, Arthur Fils en grande forme après sa victoire la semaine
Arthur
dernière.
Fils peut nous faire une belle surprise. Après Medvedev, n'oublions pas qu'il a sa seule victoire en Grand Chelem, c'est l'US Open. Bon, il n'a pas montré quand même des choses extraordinaires ces derniers temps. Moi, je mettrais bien une petite pièce sur Arthur Fils parce que gagner son premier Masters 1000, sa première finale de Masters 1000 comme ça, quasiment sans sourciller, avec une attitude vraiment au top. Je vois pas ce qui pourrait l'empêcher, si tant est qu'il joue évidemment à ce niveau-là. C'est des matchs en 5-7, c'est différent. Mais sauf à ce qu'Alcaraz retrouve la pleine possession de ses moyens, et là, pour l'instant, c'est une inconnue. Qui là pour le coup, s'il est en pleine possession de ses moyens, il reste quand même au-dessus du lot, mais on n'en sait rien, donc on va voir. Là aussi, avec des matchs en 5-7, c'est une grande inconnue pour Alcaraz. Et moi, je suis assez curieux là pour Arthur Fils.
Arthur Fils qui est dans la partie de tableau de Carlos Alcaraz et qui affrontera au premier tour le grec Stefanos Tsitsipas. C'est pas un cadeau non plus.
C'est pas
tour.
Un cadeau, mais aujourd'hui, avec le niveau d'Arthur Fils, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Alors bien sûr qu'il peut être battu par Tsitsipas, ça reste un très grand joueur, mais pour autant, aujourd'hui, Arthur Fils, il n'y a pas grand monde sur la forme de ces dernières semaines. Il n'y a pas grand monde pour le battre facilement, quoi.
Alors rendez-vous donc à l'US Open pour Arthur Fils, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev. On a compris les trois favoris de votre côté. On reste aux États-Unis pour parler de golf.
Ah, ben on peut en parler deux minutes.
On peut en parler voilà. jusqu'à la pause.
Donc ça fait trois semaines qu'on en parle de ces fameux playoffs de la FedEx Cup. Donc ça y est, ils se sont terminés, ils se sont achevés ce matin par le Tour Championship qui réunissait les 30 meilleurs joueurs de l'année. C'était que 29 parce qu'il y a eu une petite défection. Mais voilà, les 30 meilleurs. Et je dirais que pour une fois, parce que comme je vous le répète souvent, c'est vraiment un sport où le meilleur mondial, sans discussion, perd plus souvent qu'il ne gagne. Et bien là, pour le coup, il a gagné. Numéro 1 mondial, vainqueur de la FedEx, numéro 1 de l'année. Alors il n'a pas gagné tournoi majeur cette année, ce qui devient de plus en plus rare chez lui. C'est donc Scottie Scheffler, bien entendu, on n'avait pas prononcé son nom. Voilà, une très très belle victoire. Il a été longtemps gêné par Victor Hovland, le Norvégien, qui était en course au moins jusqu'à...
Sur
les 9 derniers trous, ça a été moins bien. Et à la fin, il a lâché un petit peu prise. Voilà, c'est une très très belle victoire. Même si ce n'est pas mon joueur favori, je reconnais que voilà, c'est le meilleur du monde. Et il l'a encore prouvé cette semaine et il le montrera encore pendant plusieurs années.
Ricardo ?
Oui, en début d'émission, on a parlé de la Vuelta, de l'abandon de Pogacar. Est-ce que, je voulais poser la question à Eric, est-ce qu'en golf, c'est possible ce genre de choses qui se passent, un abandon d'un joueur durant un tournoi ?
Alors ça arrive toutes les semaines. Voilà, toutes les semaines, il y a des joueurs qui se scratchent, comme on dit, la veille de l'épreuve. Et puis il y a aussi des joueurs qui démarrent le tournoi avec une blessure en général qui est là et ils espèrent effectivement pouvoir s'en sortir et en fait ça ne passe pas. Ça arrive plus rarement que la blessure se contracte pendant l'épreuve, ça c'est beaucoup plus rare. Voilà, parce que ces joueurs-là sont tellement bien physiquement, tellement bien échauffés, il y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Alors ça arrive, mais c'est vraiment rare. Mais les abandons en cours de premier tour ou en cours de deuxième tour, ça arrive assez régulièrement quand même.
C'est ce qui est arrivé donc pour Gigi.
Gigi Spawn, voilà, ancien vainqueur de l'US Open. Donc faisant partie des 30 meilleurs, donc un joueur de premier plan qui pouvait très bien prétendre lui aussi à la victoire finale, qui faisait partie des 15 joueurs à pouvoir tirer les épingles du jeu. Et puis, écoutez, physiquement, ça ne l'a pas fait.
Abandon après 5 trous donc, sur ce
voilà,
tour championship.
Donc ça a obligé le joueur qui partageait sa partie à finir tout seul. Voilà, et à jouer beaucoup plus vite que d'habitude. Bon, il ne faut pas que ça arrive trop souvent non plus. En général, ils en jouent un petit peu et bon, ils font ça avec plaisir, mais il y a eu à chaque fois, à chaque tour, un joueur qui a joué seul la partie.
Allez, restez bien avec nous. Une semaine sport binable continue dans quelques instants, juste après la pause. On parlera bien évidemment football, cette deuxième journée de Ligue 1.
RRB, la pub.
Bureau Vallée,
Mercredi pédagogique, direction Bureau-Vallée, Magenta. Profitez de moins 20% sur les rayons Beaux-Arts, Loisirs créatifs et Librairie. Peinture, dessin, lecture, activités créatives, partagez de bons moments en famille, sans vous ruiner. Offre valable chaque mercredi pédagogique chez Bureau-Vallée, Magenta.
Bureau-Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Les clients sont là, mais j'ai du mal à les attirer.
J'étais dans le même cas. J'ai repris les études avec la formation certifiante marketing et développement commercial de l'IAE. En 2 jours, j'ai appris à mieux valoriser mon offre, à construire un vrai plan d'action et mes projets ont suivi.
Développer son activité, ça s'apprend. Rejoignez la formation certifiante marketing et développement commercial de l'IAE, l'école de management de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Pour toute information, appelez la direction de la formation continue au 290 490.
Le tout info continue avec Toyota.
Le tout nouveau Toyota RAV4 hybride est à découvrir chez Toyota, à Ducos et à Kone.
Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
La deuxième mi-temps d'une semaine sportmédable. On parle football à présent, la deuxième journée de Ligue 1 qui s'est donc terminée ce matin par une défaite de Marseille sur la pelouse de Monaco, une victoire plutôt de Monaco face à Marseille. Les Monégasques dominateurs, Bastien Antoine, sur ce match-là, qu'est-ce qu'on pouvait attendre de plus des Marseillais ? C'est la victoire logique des Monégasques, on est
oui,
un peu surpris.
Je pense que Monaco a logiquement remporté la partie. Après, comme le disait le coach marseillais, cette année ça va être assez difficile pour l'Olympique de Marseille. Ils n'ont pas pu recruter de joueurs, ils ont dû faire sans leur ailier gauche Pai Chao, qui serait apparemment sur le départ. Donc c'est vrai qu'après la très belle victoire de la première journée, on était assez enthousiaste.
4-0 contre Strasbourg, forcément, on s'attendait à...
Strasbourg qui a battu Lens 2-1, donc ça montre que Strasbourg c'était pas une petite équipe, donc on était quand même assez enthousiaste pour l'Olympique de Marseille. Après voilà, je pense que Monaco c'est peut-être la seule équipe qui pourra gêner le Paris Saint-Germain cette année pour le titre. Même si malheureusement ils vont perdre leur milieu relayeur qui pour moi est un super joueur, Lamine Camara, qui devrait signer pour 50 ou 60 millions à Chelsea. Et sans ce joueur-là, je sais pas s'ils arriveront quand même à accrocher le Paris Saint-Germain, mais Monaco a un très bel effectif, il va jouer que la Ligue Europa. S'il y a une équipe qui pour moi peut gêner Paris sur le long terme, ce serait eux.
Éric Figuère, ce Monaco-Marseille.
Alors le match n'était pas si déséquilibré que ça. Hein. C'est vrai que Monaco a pu compter sur un très très bon joueur que je ne connaissais absolument pas, Brunner, un jeune Allemand, voilà, qui manifestement est un très très bon joueur. Donc ça c'est une belle découverte. Marseille effectivement se déplace sans son joueur le plus dangereux, le plus percutant, qui est Pai Chao, qui va partir sans aucun doute. Maintenant quand on regarde la composition de l'équipe, il y avait quand même sur le terrain du côté de l'OM, une équipe assez bien équilibrée, une belle petite équipe. Ça n'a pas suffi. Alors perdre à Monaco, c'est pas non plus scandaleux. Alors on était très fiers évidemment la semaine dernière avec Pierre de parler de l'OM en tête du championnat, 4-0 évidemment, mais on savait très bien qu'il fallait pas s'enflammer. Genesio quand même commence à parler sérieusement des difficultés qu'il va rencontrer avec son équipe.
Alors qu'il
n'y a que
début.
Il n'y a que des départs, il n'y aura aucune arrivée. Maintenant, il est assez compétent pour malgré tout faire tourner son équipe, et je pense qu'il y aura encore de belles choses. Bon, voilà, c'est le deuxième match. Il n'y avait pas de raison de s'enflammer, même si on a fait un peu les marioles la semaine dernière. Mais voilà, il n'y a pas de raison de s'enflammer la semaine dernière. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter non plus ce week-end. Tout comme il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour Paris parce qu'ils ont fait 2 matchs nuls. C'est pas...
Justement, on y vient. Le Paris Saint-Germain qui est en rodage,
mais qui montre quand même des valeurs maintenant bien établies jusqu'à la fin. Alors on peut toujours discuter de ce deuxième but qui est marqué au-delà du temps additionnel.
C'est 3 minutes minimum.
Voilà. Oui, mais c'est pas toujours. Alors je parle pas du tout parce que c'est Paris, hein, mais on l'a vu d'ailleurs en Coupe du Monde où les matchs duraient jusqu'à non plus finir, et on ne sait jamais finalement quand ça va s'arrêter. Il a effectivement dit comme il y avait eu un but. Bah, ça a relancé de 30 secondes. Bon, c'est un petit détail. Hein. Paris a vraiment maintenant suffisamment de métier, d'expérience et surtout un état d'esprit irréprochable pour régulièrement aller chercher des points à l'arrache. N'oublions pas qu'ils ont joué 2 fois à l'extérieur. Donc je pense que ça va très vite rentrer dans l'ordre avec leur prochain match à la maison. Et puis ensuite, voilà, comme il s'appelle Dembélé, il n'est pas encore tout à fait bien revenu. Voilà, l'intersaison, malgré tout, même si l'année dernière, ils avaient réussi un début de saison de bonne facture après cette Coupe du Monde des clubs, ce qui était là, pour le coup, une surprise. Les intersaisons sont toujours un peu compliquées. Il y a eu la Coupe du Monde. Voilà, faut pas s'inquiéter. Les joueurs sont là. Le recrutement a été bon.
Il y a quand même une défaite de match nul, défaite face à Lens en Coupe.
Oui, oui. C'est pas du tout problématique. Maintenant, si dans 5 matchs, ils ont toujours pas gagné, on pourra légitimement, pour le coup, s'inquiéter pour eux. On peut faire maintenant. Avant, on pouvait s'inquiéter, on pouvait se poser des questions. Mais depuis 2 ans, Luis Enrique a montré qu'il savait faire. Donc il n'y a pas de raison de, là, tout d'un coup, avec un effectif toujours aussi riche, voilà, avec une mentalité indiscutable, voilà, de s'inquiéter.
Ricardo ?
La question que je me pose au sujet du PSG, c'est le départ de Barcola pour Liverpool. Est-ce que ça pénalise un peu le jeu en ce début de saison et qu'ils ont perdu certains automatismes ?
Moi, je pense pas forcément. J'ai vu les deux premiers matchs de championnat, je les ai vus. Je pense que Barcola, c'est un très bon joueur quand le Paris Saint-Germain doit jouer le contre. Là, Lille qui a ouvert le score en première mi-temps, jouait vraiment tous dans leur surface. Et je trouve ça assez extraordinaire ce que Paris a réussi à faire, parce que même s'ils ont encaissé un très joli deuxième but des Lillois, ils sont restés dans leur dynamique de jeu et dans leur habitude de jouer au sol, de redoubler les passes et sur leur qualité technique pour finalement mettre 2 très beaux buts en toute fin de match. C'est sûr que c'est l'avis d'un peu d'un club. Moi personnellement, j'aurais préféré que Barcola y reste, même si je trouvais qu'il avait quand même beaucoup de déchets devant le but. Mais c'est l'avis d'un club et c'est là aussi l'avis de Barcola, voilà, qui va tenter une nouvelle aventure à Liverpool. Je pense que ça aurait été beaucoup plus simple pour lui de rester au PSG et de rester dans son cocon. À Liverpool, ça sera moins facile, il aura plus de concurrence. Et même s'il arrive pour un prix très élevé, c'est pas du tout dit qu'il soit titulaire, parce que il fait une bonne saison avec le Paris Saint-Germain, mais il n'était pas non plus titulaire au Paris Saint-Germain. Et pour finir sur le départ de Barcola, Paris a recruté un jeune joueur qui, je pense, peut devenir vraiment un très très grand joueur, Mika Götze, le Belge, qui a bizarrement pas été sélectionné pour la Coupe du Monde et qui jouait à l'Ajax Amsterdam et qui a l'air d'avoir des qualités, un potentiel vraiment assez hors normes. Donc on va voir s'il réussit à...
Qui est rentré à l'heure de jeu. Hein,
ouais, il est rentré à l'heure de jeu 2 fois, mais vraiment... joueur extraordinaire. Honnêtement, quand on regarde les vidéos de ses actions sur les saisons précédentes, c'est assez bluffant. C'est possiblement un très très grand joueur.
Jeune joueur extraordinaire. J'ai envie aussi de faire le parallèle avec ces anciens joueurs qui sont toujours extraordinaires. À Lille, 2 buts, 2 passes décisives de Giroud. On compte même plus l'âge, qui est toujours là. On a entendu son coach dire que c'était un joueur très important pour le groupe. On le comprend et ça se comprend que Giroud soit encore.
On parle de Giroud, mais on peut parler
de Thauvin, par exemple.
Oui, on peut parler de Thauvin aussi. Moi, j'ai envie de parler d'un autre joueur qui est pour le coup moins âgé, mais qui apparaît finalement au plus haut niveau sur le tard. C'est le Paul, l'attaquant, l'avant-centre de Rennes, et qui a été meilleur buteur l'année dernière, il ne faut pas l'oublier, qui cette année redémarre en trombe. Il postule pour l'équipe de France, donc ça c'est très intéressant. J'aime bien un petit peu ces profils entre ces anciens qui continuent à performer, tout simplement pourquoi ? Parce qu'ils ont une hygiène de vie irréprochable, et puis surtout parce qu'ils aiment jouer au ballon avant tout. Voilà, c'est des créateurs, c'est des joueurs qui aiment leur sport, qui aiment le football, et ça marche bien. Et Esteban Le Poll, on a hâte de le voir au plus haut niveau, ça va être très intéressant. Et puis parlons très rapidement de d'Auxerre, qui est la seule équipe avec 0 point, pour que le début de saison se passe très difficilement, et s'il ne se relève pas très rapidement, vont vivre une année plus que galère.
Absolument. 8 buts encaissés en 2 matchs.
Et puis un beau démarrage du PFC, c'est pas mal, avec Rosenior, l'entraîneur anglais qui va et vient entre la France et l'Angleterre, un coup ici, un coup là. C'est plutôt intéressant, mais ça semble plutôt bien fonctionner pour l'instant.
Il n'a pas encaissé de but depuis le début en 2 matchs, comme Monaco, les 2 seules équipes.
Intéressant, il y a un projet au PFC qui est plutôt sympa, qui est d'être bien mené, intelligemment. Donc, bon, évidemment, c'est la 2e journée, hein, attendons de voir, mais c'est intéressant. Et puis Lyon qui patine, qui avait montré de belles choses à l'intersaison et qui... et qui s'est pris les pieds dans le tapis pour la qualification à la Champions League et qui là redémarre le championnat vraiment péniblement.
Et qui démarre péniblement, qui est tout de même à 4 points en deux matchs. Les Lyonnais vont se concentrer sur le championnat. Il y a quand même l'Europa League derrière. Mais Ricardo, vous vouliez parler de Lyon.
Oui, je regrette que cette équipe en moins en Champions League, parce que ils n'ont pas réussi à se qualifier. 1-1 à l'extérieur et perdre chez soi. Donc c'est un peu dommage. Si on avait eu une équipe supplémentaire française en Champions League, ça aurait été quand même très sympathique et ça aurait été agréable de voir cette équipe de Lyon qui s'est toujours assez bien comportée en Champions League. Et donc c'est un peu dommage, mais c'est vrai que maintenant ils vont peut-être se concentrer plus sur le championnat. Et j'ai lu un article à ce sujet qu'ils espéraient deux matchs 6 points et qu'ils regrettent d'avoir pas réussi à tenir au score pour faire de match 6 points et satisfaire leur public.
Un petit mot sur les Troyens aussi. Match nul pour commencer face au Paris FC. Victoire 2-1 sur Lorient. Les Troyens, ils vont faire leur petit bonhomme de chemin. On voit des anciens joueurs, Renaud Ripard, l'ancien Nîmois, qui était blessé, qui revient, qui marque.
C'est des clubs qui sont plutôt bien structurés, qui pratiquent un football qui est assez intéressant. Donc ils vont faire comme la plupart et comme tous les ans, un championnat intéressant avec des victoires, des défaites. Ils seront jamais tout à fait en haut de l'affiche, hein, ça va être très compliqué. Mais c'est des clubs qui sont intéressants à voir.
Allez, donc la troisième journée de Ligue 1, ce sera dès le week-end prochain, avec notamment Marseille-Paris FC à suivre, Lens-Lorient, PSG-Monaco aussi, Lyon-Auxerre, Toulouse-Lille. Ce sera donc le week-end prochain, troisième journée de Ligue 1. Déjà l'heure des coups de cœur, des coups de gueule. Ricardo Baroni, je me tourne vers vous pour commencer.
Alors, mon coup de cœur, il va être très simple. Je prends mon jeton, je le donne à Eric, parce que je crois qu'il a utilisé tout son quota lundi dernier.
C'est vrai que j'avais beaucoup parlé, mais tu aurais pu quand même. Moi, j'en ai parlé de la semaine dernière, de l'Open Hyundai Senior. Donc, un coup de cœur pour tous ces seniors qui font vivre le golf calédonien et qui participent à cette belle épreuve à la Wengi. Bon, là, qui s'est déroulée sur trois parcours différents. Et puis, surtout, un éclairage sur ceux qui se sont distingués. Chez les filles, deuxième et troisième, Muraille de la Terre, Marie-Claire Trintitane. Je parlerai des vainqueurs juste après, très rapidement. Et puis, chez les garçons, deuxième, David et troisième, Olivier Pérez. Et puis donc les deux grands vainqueurs, des gens qui sont assez connus dans le milieu et dans le milieu du sport. Pour les dames, on va commencer par elle, c'est Pascal Bastien-Thierry, hein, qui est, souvenons-nous, la présidente du comité d'organisation de NC 2011 et qui donc gagne enfin l'Open Hyundai Senior. Et chez les garçons, c'est Jean-Marc Saturnin qui a battu le champion calédonien en titre sur une belle bataille en jouant très très bien les trois jours. Donc bravo à tous ces seniors et à ceux que je viens de citer en particulier.
Et félicitations à eux. Je me tourne vers vous pour terminer. Bastien Antoine, votre coup de cœur, il est sur le football local ?
Il est sur le football local et également aujourd'hui ça sera sur un événement.
Ouais.
Donc je profite de ma venue ici pour en parler. C'est la première fois qu'on en parle, c'est dans 3 mois. On avait connu en janvier dernier la journée spéciale Brésil sur la plage de Lens-Vata. Le deuxième épisode s'annonce, ça sera le 5 et 6 décembre. Et des associations nous ont rejoints, notamment une association de Capoeira et la Banda Momo, qui s'occupe de la fanfare brésilienne. Donc ça s'appellera le Festival Brésilien de Nouméa. Et donc on aura le temps d'en reparler un petit peu, mais du coup il y aura un tournoi de beach volley avec les vraies règles de beach volley qui sera organisé sur le samedi où on attend près de 100 joueurs. Le dimanche il y aura un tournoi de foot volley, notre spécialité, pareil, avec une centaine de joueurs. Et il y aura des initiations gratuites à la capoeira auxquelles le public pourra s'inscrire. Donc voilà, il y aura un très beau programme. On attend beaucoup de gens pour transformer la plage Lens-Vata le temps d'un week-end en un petit Copacabana.
Eh bien, on vous invitera d'ici là pour lancer l'événement. Les dates, qu'on les note d'ores et déjà ?
C'est le 5 et 6 décembre.
Allez, c'est noté sur l'agenda de Radio Rythme Bleu. On sera présent 17h45, la fin de cette semaine sportable. Merci d'avoir été avec nous ce soir, messieurs.
Merci à tous.
Belle soirée. Et tout de suite, place à Léana Colombo pour Info Soir.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine sportable sur Radio Rythme Bleu.